Romain Rolland, Jean-Christophe, tome 9, Le Buisson Ardent. Première partie, chapitre 1er. Calme du cœur, les vents suspendus, l'air immobile. Christophe était tranquille, la paix était en lui. Il éprouvait quelque fierté de l'avoir conquise. Et secrètement, il en était contrit. Il s'étonnait du silence. Ses passions étaient endormies. Il croyait de bonne foi qu'elle ne se réveillerait plus. Sa grande force, un peu brutale, s'assoupissait, sans objet, désœuvrée. Au fond, un vide secret, un « à quoi bon » caché. Peut-être le sentiment du bonheur qu'il n'avait pas su saisir. Il n'avait plus assez à lutter ni contre soi, ni contre les autres. Il n'avait plus assez de peine, même à travailler. Il était arrivé au terme d'une étape. Il bénéficiait de la somme de ses efforts antérieurs. Il épuisait trop aisément la veine musicale qu'il avait ouverte. Et tandis que le public, naturellement en retard, découvrait et admirait ses œuvres passées, lui s'en détachait, sans savoir encore s'il irait plus avant. Il jouissait, dans la création, d'un bonheur uniforme. L'art n'était plus pour lui, à cet instant de sa vie, qu'un bel instrument dont il jouait en virtuose. Il se sentait avec honte devenir dilettante. « Il faut, disait Ibsen, pour persévérer dans l'art, autre chose et plus qu'un génie naturel. Des passions, des douleurs qui remplissent la vie et lui donnent un sens. Sinon, l'on ne crée pas, on écrit des livres. » Christophe écrivait des livres. Il n'y était pas habitué. Ses livres étaient beaux. Il les eût préférés moins beaux et plus vivants. Cet athlète au repos, qui ne savait que faire de ses muscles, regardait avec le bâillement d'un fauve qui s'ennuie les années de tranquille travail qui l'attendaient. Et comme, avec son vieux fond d'optimisme germanique, il se persuadait volontiers que tout était pour le mieux, il pensait que c'était là sans doute le terme inévitable. Il se flattait d'être sorti de la tourmente, d'être devenu son maître. Ce n'était pas beaucoup dire « enfin ». On règne sur ce qu'on a, on est ce qu'on peut être. Il se croyait arrivé au port. Les deux amis n'habitaient pas ensemble. Quand Jacqueline était partie, Christophe avait pensé qu'Olivier reviendrait s'installer chez lui. Mais Olivier ne le pouvait point. Malgré le besoin qu'il avait de se rapprocher de Christophe, il sentait l'impossibilité de reprendre avec lui l'existence d'autrefois. Après les années passées avec Jacqueline, il lui eût semblé intolérable et même sacrilège d'introduire un autre dans l'intimité de sa vie. Cet autre l'aima-t-il mieux et fut-il mieux aimé de lui que Jacqueline? Cela ne se raisonne pas. Christophe avait eu peine à comprendre. Il revenait à la charge, il s'étonnait, il s'attristait, il s'indignait. Puis son instinct, supérieur à son intelligence, l'avertit. Brusquement, il se tut et trouva qu'Olivier avait raison. Mais ils se voyaient chaque jour, et jamais ils n'avaient été plus unis. Peut-être n'échangeaient-ils pas dans leurs entretiens les pensées les plus intimes. Ils n'en avaient pas besoin. L'échange se faisait sans parole, par la grâce des cœurs aimants. Tous deux causaient peu, absorbés l'un dans son art et l'autre dans ses souvenirs. La peine d'Olivier s'atténuait, mais il ne faisait rien pour cela. Il s'y complaisait presque. Ce fut pendant longtemps sa seule raison de vivre. Il aimait son enfant, mais son enfant, un bébé vagissant, ne pouvait tenir grande place dans sa vie. Il y a des hommes qui sont plus amants que pères. Il ne servirait à rien de s'en scandaliser. La nature n'est pas uniforme, et il serait absurde de vouloir imposer à tous les mêmes lois du cœur. Nul n'a le droit de sacrifier ses devoirs à son cœur. Du moins faut-il reconnaître au cœur le droit de n'être pas heureux, en faisant son devoir. Ce qu'Olivier aimait le plus en son enfant, c'était celle dont son enfant était la chair. Jusqu'à ces derniers temps, il avait prêté peu d'attention aux souffrances des autres. Il était un intellectuel qui vit trop enfermé en soi. Ce n'était pas égoïsme, c'était l'habitude maladive du rêve. Jacqueline avait encore élargi le vide autour de lui. Son amour avait tracé entre Olivier et le reste des hommes un cercle magique qui persistait après que l'amour n'était plus. Et puis, il était de tempérament un aristocrate. Depuis l'enfance, en dépit de son cœur tendre, il s'était tenu éloigné de la foule par une délicatesse instinctive de corps et d'âme. L'odeur et les pensées publiques lui répugnaient. Mais tout avait changé à la suite d'un fait divers banal dont il venait d'être le témoin. Il avait loué un appartement très modeste dans le Haut-Mont-Rouge, non loin de Christophe et de Cécile. Le quartier était populaire, la maison habitée par de petits rentiers, des employés et quelques ménages ouvriers. En un autre temps, il eût souffert de ce milieu où il se trouvait un étranger, mais en ce moment, peu lui importait ici ou là. Il se trouvait partout un étranger. Il ne savait pas qui il avait pour voisin, et il ne voulait pas le savoir. Quand il revenait du travail, il avait pris un emploi dans une maison d'édition, il s'enfermait avec ses souvenirs, et il n'en sortait que pour aller voir son enfant et Christophe. Son logement n'était pas le foyer. C'était la chambre noire où se fixent les images du passé. Plus elle était noire et nue, plus nettement les images ressortaient. À peine remarquait-il les figures qu'il croisait sur l'escalier. À son insu, pourtant, certaines se fixaient en lui. Il est des esprits qui ne voient bien les choses qu'après qu'elles sont passées. Mais alors, rien ne leur échappe. Les moindres détails sont gravés au burin. Tel était Olivier, peuplé d'ombres des vivants. Au choc d'une émotion, elles surgissaient. Et Olivier les reconnaissait sans les avoir connues, parfois tendait les mains pour les saisir. Trop tard. Un jour, en sortant, il vit un rassemblement devant la porte de sa maison, autour de la concierge qui pérorait. Il était si peu curieux qu'il eût continué son chemin sans s'informer. Mais la concierge, désireuse de recruter un auditeur de plus, l'arrêta, lui demandant s'il savait ce qui était arrivé à ces pauvres Roussel. Olivier ne savait même pas qui étaient ces pauvres Roussel, et il prêta l'oreille avec une indifférence polie. Quand il apprit qu'une famille d'ouvriers, père, mère et 5 enfants, venait de se suicider de misère dans sa maison, il resta comme les autres à regarder les murs, en écoutant la narratrice qui ne se lassait pas de recommencer l'histoire. À mesure qu'elle parlait, des souvenirs lui revenaient. Il s'apercevait qu'il avait vu ces gens. Il posa la question. Oui, il les reconnaissait. L'homme, il entendait sa respiration sifflante dans l'escalier, un ouvrier boulanger, le sang bu par la chaleur du four, les joues creuses, mal rasées. Atteint d'une pneumonie au commencement de l'hiver, il s'était remis à la tâche insuffisamment guéri. Une rechute était survenue. Depuis 3 semaines, il était sans travail et sans force. La femme, traînant d'incessantes grossesses, percluse de rhumatisme, s'épuisait à faire quelques ménages, passait les journées en course, pour tâcher d'obtenir de l'assistance publique de maigres secours qui ne se pressaient pas de venir. En attendant, les enfants venaient, et ils ne se lassaient point. 11 ans, 7 ans, 3 ans, sans compter 2 autres qu'on avait perdus sur la route. Et pour achever, 2 jumeaux, qui avaient bien choisi le moment pour faire leur apparition. Ils étaient nés le mois passé. Le jour de leur naissance, racontait une voisine, l'aînée des 5, la petite de 11 ans, Justine, pauvre gosse, s'est mise à sangloter, demandant comment elle viendrait à bout de les porter tous les 2. Olivier revit sur le champ l'image de la fillette, un front volumineux, des cheveux pâles tirés en arrière, les yeux gris troubles à fleur de tête. On la rencontrait toujours portant les provisions, ou la sœur plus petite. Ou bien elle tenait par la main le frère de 7 ans, un garçon chétif au minois fin, qui avait un œil perdu. Quand ils se croisaient dans l'escalier, Olivier disait, avec sa politesse distraite, « Pardon, mademoiselle. » Elle ne disait rien. Elle passait, raide, s'effaçant à peine. Mais cette courtoisie illusoire lui faisait un secret plaisir. La veille au soir, à 6 heures, en descendant, il l'avait rencontrée pour la dernière fois. Elle montait un seau de charbon de bois. La charge semblait bien lourde. Mais c'est chose naturelle pour les enfants du peuple. Olivier avait salué, comme d'habitude, sans regarder. Quelques marches plus bas, levant machinalement la tête, il avait vu, penchée sur le palier, la petite figure crispée qui le regardait descendre. Elle avait aussitôt repris sa montée. Savait-elle où cette montée la menait? Olivier n'en doutait pas, et il était obsédé par la pensée de cet enfant qui portait dans son sceau trop lourd la mort, la délivrance. Les malheureux petits, pour qui ne plus être voulait dire ne plus souffrir. Il ne put continuer sa promenade. Il rentra dans sa chambre. Mais là, savoir ses morts près de lui, quelques cloisons l'en séparaient. Pensait qu'il avait vécu à côté de ses angoisses. Il alla voir Christophe. Il avait le cœur serré. Il se disait qu'il était monstrueux de s'absorber, comme il avait fait, dans de vains regrets d'amour, lorsque tant d'êtres souffraient de malheurs mille fois pires et qu'on pouvait les sauver. Son émotion était profonde. Elle n'eut pas de peine à se communiquer. Christophe fut remué à son tour. Au récit d'Olivier, il déchira la page qu'il venait d'écrire, se traitant d'égoïste qui s'amuse à des jeux d'enfants. Mais ensuite, il ramassa les morceaux déchirés. Il était trop pris par sa musique, et son instinct lui disait qu'une œuvre d'art de moins ne ferait pas un heureux de plus. Cette tragédie de la misère n'était pour lui rien de nouveau. Depuis l'enfance, il était habitué à marcher sur le bord de tels abîmes et à n'y pas tomber. Même il était sévère pour le suicide, à ce moment de sa vie où il se sentait en pleine force, et ne concevait pas qu'on pût, pour quelque souffrance que ce fût, renoncer à la lutte. La souffrance et la lutte, qu'y a-t-il de plus normal? C'est l'échine de l'univers. Olivier avait aussi passé par des épreuves semblables, mais jamais il n'avait pu en prendre son parti, ni pour lui, ni pour les autres. Il avait horreur de cette misère où la vie de sa chère Antoinette s'était consumée. Après qu'il avait épousé Jacqueline, quand il s'était laissé amollir par la richesse et par l'amour, il avait eu hâte d'écarter le souvenir des tristes années où sa sœur et lui s'épuisaient à gagner chaque jour leur droit à vivre le lendemain, sans savoir s'ils y réussiraient. Ces images reparaissaient, à présent qu'il n'avait plus son égoïsme d'amour à sauvegarder. Au lieu de fuir le visage de la souffrance, il se mit à sa recherche. Il n'avait pas beaucoup de chemin à faire pour la trouver. Dans son état d'esprit, il devait la voir partout. Elle remplissait le monde. Le monde, cet hôpital. Ô douleur, agonie, torture de chair blessée, pantelante qui pourrit vivante, supplice silencieux des cœurs que le chagrin consume. Enfants privés de tendresse, filles privées d'espoir, femmes séduites et trahies, hommes déçus dans leurs amitiés, leurs amours et leur foi, lamentable cortège des malheureux que la vie a meurtri. Le plus atroce n'est pas la misère et la maladie. C'est la cruauté des hommes, les uns envers les autres. À peine Olivier eut-il levé la trappe qui fermait l'enfer humain, que monta vers lui la clameur de tous les opprimés, prolétaires exploités, peuples persécutés, l'Arménie massacrée, la Finlande étouffée, la Pologne écartelée, la Russie martyrisée, l'Afrique livrée en curée aux loups européens, les misérables de tout le genre humain. Il en fut suffoqué. Il l'entendait partout. Il ne pouvait plus concevoir qu'on pensât à autre chose. Il en parlait sans cesse à Christophe. Christophe, troublé, disait « Tais-toi, laisse-moi travailler. » Et comme il avait peine à reprendre son équilibre, il s'irritait, jurait « Au diable, ma journée est perdue, te voilà bien avancé. » Olivier s'excusait. « Mon petit, disait Christophe, il ne faut pas toujours regarder dans le gouffre. On ne peut plus vivre. » Il faut tendre la main à ceux qui sont dans le gouffre. Sans doute, mais comment? En nous y jetant aussi? Car c'est cela que tu veux. Tu as une propension à ne plus voir dans la vie que ce qu'elle a de triste. Que le bon Dieu te bénisse. Ce pessimisme est charitable, assurément, mais il est déprimant. Veux-tu du bonheur? D'abord, sois heureux. Heureux, comment peut-on avoir le cœur de l'être quand on voit tant de souffrances? Il ne peut y avoir de bonheur qu'attaché de les diminuer. Fort bien, mais ce n'est pas en allant me battre à tort et à travers que j'aiderai les malheureux. Un mauvais soldat de plus, ce n'est guère, mais je puis consoler par mon art, répandre la force et la joie. Sais-tu combien de misérables ont été soutenus dans leur peine par la beauté d'une chanson ailée? À chacun son métier. Vous autres de France, en généreux hurluberlus, vous êtes toujours les premiers à manifester contre toutes les injustices, d'Espagne ou de Russie, sans savoir au juste de quoi il s'agit. Je vous aime pour cela, mais croyez-vous que vous avanciez les choses, vous vous y jetez en brouillon, et le résultat est nul, quand il n'est pas pire. Et vois, Jamais votre art n'a été plus fade qu'en ce temps où vos artistes prétendent se mêler à l'action universelle. Étrange que tant de petits maîtres dilettants et roués s'érigent en apôtres. Il ferait beaucoup mieux de verser à leur peuple un vin moins frelaté. Mon premier devoir, c'est de bien faire ce que je fais, et de vous fabriquer une musique saine qui vous redonne du sang et mette en vous du soleil. Pour répandre le soleil sur les autres, il faut l'avoir en soi. Olivier en manquait. Comme les meilleurs d'aujourd'hui, il n'était pas assez fort pour rayonner la force à lui tout seul. Il ne l'aurait pu qu'en s'unissant avec d'autres. Mais avec qui s'unir ? Libre d'esprit et religieux de cœur, il était rejeté de tous les partis politiques et religieux. Ils rivalisaient tous entre eux d'intolérance et d'étroitesse. Dès qu'ils avaient le pouvoir, c'était pour en abuser. Seuls les opprimés attiraient Olivier. En ceci, du moins, il partageait l'opinion de Christophe qu'avant de combattre les injustices lointaines, on doit combattre les injustices prochaines, celles qui nous entourent et dont nous sommes plus ou moins responsables. Trop de gens se contentent, en protestant contre le mal commis par d'autres, sans songer à celui qu'ils font. Il s'occupa d'abord d'assistance aux pauvres. Son amie, Madame Arnaud, faisait partie d'une œuvre charitable. Olivier s'y fit admettre. Dans les premiers temps, il eut plus d'un mécompte. Les pauvres dont il dut se charger n'étaient pas tous dignes d'intérêt. Ou il répondait mal à la sympathie, il se méfiait de lui, il lui restait fermé. D'ailleurs, un intellectuel a peine à se satisfaire de la charité toute simple. Elle arrose une si petite province du pays de misère. Son action est presque toujours morcelée, fragmentaire. Elle semble aller au hasard et panser les blessures au fur et à mesure qu'elle en découvre. Elle est, en général, trop modeste et trop pressée pour s'aventurer jusqu'aux racines du mal. Or, c'est là une recherche dont l'esprit d'Olivier ne pouvait se passer. Il se mit à étudier le problème de la misère sociale. Il ne manquait point de guide. En ce temps, la question sociale était devenue une question de société. On en parlait dans les salons, dans les romans, au théâtre. Chacun avait la prétention de la connaître. Une partie de la jeunesse y dépensait le meilleur de ses forces. À toute génération nouvelle, il faut une belle folie. Mais les plus égoïstes parmi les jeunes gens ont un trop-plein de vie, un capital d'énergie, qui ne veut point rester improductif. Ils cherchent à le dépenser dans une action ou, plus prudemment, dans une théorie. Aviation ou révolution, le sport des muscles ou celui des idées. On a besoin, quand on est jeune, de se donner l'illusion qu'on participe à un grand mouvement de l'humanité, qu'on renouvelle le monde. On a des sens qui vibrent à tous les souffles de l'univers. On est si libre et si léger. On ne s'est pas encore chargé du lest d'une famille. On n'a rien, on ne risque guère. On est bien généreux quand on peut renoncer à ce qu'on ne tient pas encore. Et puis, il est si bon d'aimer et de haïr et de croire qu'on transforme la terre avec des rêves et des cris. Les jeunes gens sont comme des chiens aux écoutes. Ils frémissent et ils aboient au vent. Une injustice commise à l'autre bout du monde les faisait délirer. Aboiement dans la nuit. D'une ferme à l'autre, au milieu des grands bois, ils se répondaient sans répit. La nuit était agitée. Il n'était pas facile de dormir en ce temps-là. Le vent charriait dans l'air l'écho de tant d'injustices. L'injustice est innombrable. Pour remédier à l'une, on risque d'en causer d'autres. Qu'est-ce que l'injustice ? Pour l'un, c'est la paix honteuse, la patrie démembrée. Pour l'autre, c'est la guerre. Pour celui-ci, c'est le passé détruit. C'est le prince banni. Pour celui-là, c'est l'Église spoliée. Pour ce troisième, c'est l'avenir étouffé, la liberté en danger. Pour le peuple, c'est l'inégalité. Et pour l'élite, c'est l'égalité. Il y a tant d'injustices différentes que chaque époque choisit la sienne, celle qu'elle combat et celle qu'elle favorise. À ce moment, le plus gros des efforts du monde était tourné contre les injustices sociales et visait inconsciemment à en préparer de nouvelles. Certes, ces injustices étaient lourdes et s'étalaient aux yeux, depuis que la classe ouvrière, croissant en nombre et en puissance, était devenue un des rouages essentiels de l'État. Mais en dépit des déclamations de ses tribuns et ses bardes, la situation de cette classe n'était pas pire, elle était meilleure qu'elle n'avait été dans le passé. Et le changement ne venait pas de ce qu'elle souffrait plus, mais de ce qu'elle était plus forte. Plus forte par la force même du capital ennemi, par la fatalité du développement économique et industriel, qui avait rassemblé ses travailleurs en armées prêtes au combat, et par le machinisme, qui leur avait mis les armes à la main, avait fait de chaque contremaître un maître qui commandait à la lumière, à la foudre, à l'énergie du monde. De cette masse énorme de forces élémentaires que des chefs depuis peu tâchaient d'organiser, se dégageait une chaleur de brasier, des ondes électriques qui parcouraient le corps de la société humaine. Ce n'était pas par sa justice ou par la nouveauté et la force de ses idées que la cause de ce peuple remuait la bourgeoisie intelligente, bien qu'ils voulussent le croire. C'était par sa vitalité. Sa justice, mille autres justices étaient violées dans le monde, sans que le monde s'en émût. Ses idées, des lambeaux de vérité ramassés çà et là, ajustés à la taille d'une classe, aux dépens des autres classes. Des credos absurdes comme tous les credos, droit divin des rois, infaillibilité des papes, règne du prolétariat, suffrage universel, égalité des hommes, pareillement absurdes si l'on ne considère que leur valeur de raison, et non la force qui les anime. Qu'importait leur médiocrité? Les idées ne conquièrent pas le monde en tant qu'idées, mais en tant que force. Elles ne prennent pas les hommes par leur contenu intellectuel, mais par le rayonnement vital qui, à certaines heures de l'histoire, s'en dégage. On dirait un fumet qui monte. Les odorats les plus grossiers en sont saisis. La plus sublime idée restera sans effet jusqu'au jour où elle devient contagieuse, non par ses propres mérites, mais par ceux des groupes humains qui l'incarnent et lui transfusent leur sang. Alors la plante desséchée, la rose de Jéricho, soudainement fleurit, grandit, remplit l'air de son arôme violent. Ses pensées, dont l'éclatant drapeau menait les classes ouvrières à l'assaut de la citadelle bourgeoise, étaient sorties du cerveau de rêveurs bourgeois. Tant qu'elles étaient restées dans les livres des bourgeois, elles étaient comme mortes. Des objets de musée, des momies emmaillotées dans des vitrines que personne ne regarde. Mais aussitôt que le peuple s'en était emparé, il les avait faites peuple. Il y avait ajouté sa réalité fiévreuse qui les déformait et qui les animait, soufflant dans ses raisons abstraites les espoirs hallucinés, un vent brûlant d'égir. Elles se propageaient de l'un à l'autre. On en était touché, sans savoir ni par qui, ni comment elles avaient été apportées. Les personnes ne comptaient guère, l'épidémie morale continuait de s'étendre, et il se pouvait que des êtres bornés la communiquassent à des êtres d'élite. Chacun en était porteur à son insu. Ces phénomènes de contagion intellectuelle sont de tout temps et de tout pays. Ils se font sentir même dans les états aristocratiques où tâchaient de se maintenir des castes fermées. Mais nulle part ils ne sont plus foudroyants que dans les démocraties qui ne conservent aucune barrière sanitaire entre l'élite et la foule. Celle-là est aussitôt contaminée. En dépit de son orgueil et de son intelligence, elle ne peut résister à la contagion, car elle est bien plus faible qu'elle ne pense. L'intelligence est un îlot que les marées humaines rongent, effritent et recouvrent. Elle n'émerge de nouveau que quand le flux se retire. On admire l'abnégation des privilégiés français qui abdiquèrent leurs droits dans la nuit du 4 août. Ce qui est le plus admirable, sans doute, c'est qu'ils n'ont pu faire autrement. J'imagine que bon nombre d'entre eux, rentrés dans leur hôtel, se sont dit « Qu'ai-je fait ? J'étais ivre !» La magnifique ivresse, louée soit le bon vin de la vigne qui le donne. La vigne dont le sang enivra les privilégiés de la vieille France, ce n'était pas eux qui l'avaient plantée. Le vin était tiré, il n'y avait plus qu'à le boire. Qui le buvait, délirait. Même ceux qui ne buvaient point avaient le vertige, rien qu'à humer en passant l'odeur de la cuvée. Vendange de la Révolution. Du vin de 89, il ne restait plus à présent, dans les celliers de famille, que quelques bouteilles éventées. Mais les enfants de nos petits-enfants se souviendront que leurs arrière-grands-pères en eurent la tête tournée. C'était un vin plus âpre, mais non moins fort, qui montait au cerveau des jeunes bourgeois de la génération d'Olivier. Ils offraient leur classe en sacrifice au Dieu nouveau, Deo Ignoto, le peuple. Certes, ils n'étaient pas tous également sincères. Beaucoup ne voyaient qu'une occasion de se distinguer de leur classe en affectant de la mépriser. Pour la plupart, c'était un passe-temps intellectuel, un entraînement oratoire qu'il ne prenait pas tout à fait au sérieux. Il y a plaisir à croire que l'on croit à une cause, que l'on se bat pour elle, ou bien que l'on se battra, du moins qu'on pourrait se battre. Il n'est même pas mauvais de penser que l'on risque quelque chose. Émotion de théâtre. Elles sont bien innocentes quand on s'y livre naïvement, sans qu'il s'y mêle de calculs intéressés. Mais d'autres, plus avisés, ne jouaient qu'à bon escient. Le mouvement populaire leur était un moyen d'arriver. Tels les pirates normands, ils profitaient de la mer montante pour lancer leur barque à l'intérieur des terres. Ils comptaient pénétrer au fond des grands estuaires et rester agrippés aux villes conquises, tandis que la mer se retire. La passe était étroite et le flot capricieux. Il fallait être habile, mais deux ou trois générations de démagogie ont formé une race de corsaires pour qui le métier n'a plus de secret. Ils passaient hardiment et n'avaient même pas un regard pour ceux qui sombraient. Cette canaille-là est de tous les partis. Grâce à Dieu, aucun parti n'en est responsable. Mais le dégoût que ces aventuriers inspiraient aux sincères et aux convaincus avait conduit certains à désespérer de leur classe. Olivier voyait de jeunes bourgeois riches et instruits qui avaient le sentiment de la déchéance de la bourgeoisie et de leur inutilité. Il n'avait que trop de penchant à sympathiser avec eux. Après avoir cru d'abord à la rénovation du peuple par l'élite, après avoir fondé des universités populaires et y avoir dépensé beaucoup de temps et d'argent, ils avaient constaté l'échec de leurs efforts. L'espoir avait été excessif, le découragement l'était aussi. Le peuple n'était pas venu à leur appel où ils s'étaient sauvés. Quand ils venaient, ils entendaient tout de travers. Ils ne prenaient de la culture bourgeoise que les vices. Enfin, plus d'une brebis galeuse s'était glissée dans les rangs des apôtres bourgeois et les avait discrédités en exploitant du même coup le peuple et les bourgeois. Alors il semblait aux gens de bonne foi que la bourgeoisie était condamnée, qu'elle ne pouvait qu'infecter le peuple et que le peuple devait à tout prix se libérer d'elle, faire son chemin tout seul. Il restait donc sans autre action possible que d'annoncer un mouvement qui se ferait sans eux et contre eux. Les uns y trouvaient une joie de renoncement, de sympathie humaine, profonde et désintéressée, qui se nourrit de son sacrifice. Aimer, se donner. La jeunesse est si riche de son propre fonds qu'elle peut se passer d'être payée de retour. Elle ne craint pas de rester dépourvue. D'autres satisfaisaient là un plaisir de raison, une logique impérieuse. Ils se sacrifiaient non aux hommes, mais aux idées. C'étaient les plus intrépides. Ils éprouvaient une jouissance orgueilleuse à déduire de leur raisonnement la fin fatale de leur classe. Il leur eût été plus pénible de voir leurs prédictions démenties que d'être écrasés sous le poids. Dans leur ivresse intellectuelle, ils criaient à ceux du dehors « Plus fort, frappez plus fort, qu'il ne reste plus rien de nous !» Ils s'étaient faits les théoriciens de la violence. De la violence des autres, car, suivant l'habitude, ces apôtres de l'énergie brutale étaient presque toujours des gens débiles et distingués. Quelques-uns, fonctionnaires de cet État qu'ils parlaient de détruire, fonctionnaires appliqués, consciencieux et soumis. Leur violence théorique était la revanche de leur débilité, de leur rancœur et de la compression de leur vie. Mais elle était surtout l'indice des orages qui grondaient autour d'eux. Les théoriciens sont comme les météorologistes. Ils disent, en termes scientifiques, le temps non pas qu'il fera, mais qu'il fait. Ils sont la girouette qui marque d'où souffle le vent. Quand ils tournent, ils ne sont pas loin de croire qu'ils font tourner le vent. Le vent avait tourné. Les idées s'usent vite dans une démocratie, d'autant plus qu'elles se sont plus vite propagées. Combien de républicains en France s'étaient, en moins de 50 ans, dégoûtés de la République, du suffrage universel et de tant de libertés conquises avec ivresse. Après le culte fétichiste du nombre, après l'optimisme béat qui avait cru aux saintes majorités et qui en attendait le progrès humain, l'esprit de violence soufflait. L'incapacité des majorités à se gouverner elles-mêmes, leur vénalité, leur veulerie, leur basse et peureuse aversion de toute supériorité, leur lâcheté oppressive soulevaient la révolte. Les minorités énergiques, toutes les minorités, en appelait à la force. Un rapprochement baroque et cependant fatal se faisait entre les royalistes de l'Action française et les syndicalistes de CGT. Balzac parle, quelque part, de ces hommes de son temps, aristocrates par inclination, qui se faisaient républicains par dépit, uniquement pour trouver beaucoup d'inférieurs parmi leurs égaux. Maigre plaisir! Il faut contraindre ces inférieurs à se reconnaître tels, et pour cela nul moyen qu'une autorité qui impose la suprématie de l'élite, ouvrière ou bourgeoise, au nombre qui l'opprime. Les jeunes intellectuels, petits bourgeois orgueilleux, se faisaient royalistes ou révolutionnaires, par amour-propre froissé et par haine de l'égalité démocratique. Et les théoriciens désintéressés, les philosophes de la violence, en bonne girouette, se dressaient au-dessus d'eux, oriflamme de la tempête. Il y avait enfin la bande des littérateurs en quête d'inspiration, de ceux qui savent écrire, mais ne savent quoi écrire. Comme les Grecs à Aulis, bloqués par le calme plat, ils ne peuvent plus avancer, et guettent impatiemment le bon vent, quel qu'il soit, qui viendra gonfler leur voile. On voyait là des illustres, de ceux que l'affaire Dreyfus avait inopinément arrachés à leurs travaux de style et lancés dans les réunions publiques, exemple trop suivi au gré des initiateurs. Une foule de littérateurs s'occupait maintenant de politique et prétendait régenter les affaires de l'État. Tout leur était prétexte à former des ligues, lancer des manifestes, sauver le Capitole. Après les intellectuels de l'avant-garde, les intellectuels de l'arrière, les uns valaient les autres. Chacun des deux partis traitait l'autre d'intellectuel et se traitait lui-même d'intelligent. Ceux qui avaient la chance de posséder dans leurs veines quelques gouttes de sang du peuple en étaient glorieux. Ils y trempaient leurs plumes. Tous bourgeois mécontents et cherchant à reprendre l'autorité que la bourgeoisie avait, par son égoïsme, irrémédiablement perdue. Il était rare que ces apôtres soutinssent longtemps leur zèle apostolique. Au début, la cause leur valait des succès qui n'étaient probablement pas dus à leurs dons oratoires. Leur amour-propre en était délicieusement flatté. Depuis, ils continuaient, avec moins de succès, et quelques peurs secrètes d'être un peu ridicules. À la longue, ce dernier sentiment tendait à l'emporter, doublé de la lassitude d'un rôle difficile à jouer, pour des hommes de leur goût distingué et de leur scepticisme. Ils attendaient, pour battre en retraite, que le vent le leur permît et aussi leur escorte, car ils étaient prisonniers et de l'une et de l'autre. Ces Voltaire et ces Joseph de Maistre des temps nouveaux cachaient sous leur hardiesse d'écrit une incertitude épeurée, qui tâtait le terrain, craignaient de se compromettre auprès de ces jeunes gens, s'évertuaient à leur plaire, à jouer les jouvenceaux. Révolutionnaires ou contre-révolutionnaires par littérature, ils se résignaient à suivre la mode littéraire qu'ils avaient contribué à fonder. Le type le plus curieux qu'Olivier rencontra dans cette petite avant-garde bourgeoise de la Révolution fut le révolutionnaire par timidité. L'échantillon qu'il en avait sous les yeux se nommait Pierre Canet. De riche bourgeoisie et de famille conservatrice, hermétiquement fermée aux idées nouvelles, magistrats et fonctionnaires qui s'étaient illustrés en boudant le pouvoir ou en se faisant révoquer, gros bourgeois du Marais qui flirtaient avec l'Église. Pensait peu, mais bien. Il s'était marié, par désœuvrement, avec une femme au nom aristocratique qui ne pensait pas moins bien ni davantage. Ce monde bigot, étroit et arriéré, qui remâchait perpétuellement sa morgue et son amertume, avait fini par l'exaspérer, d'autant plus que sa femme était laide et l'assommait. D'intelligence moyenne, d'esprit assez ouvert, il avait des aspirations libérales, sans trop savoir en quoi elles consistaient. Ce n'était pas dans son milieu qu'il aurait pu apprendre ce qu'était la liberté. Tout ce qu'il savait, c'est qu'elle n'était point là, et il se figurait qu'il suffisait d'en sortir pour la trouver. Il était incapable de marcher seul. Dès ses premiers pas au dehors, il fut heureux de se joindre à des amis de collège, dont certains étaient férus des idées syndicalistes. Il se trouvait encore plus dépaysé dans ce monde que dans celui d'où il venait, mais il ne voulut pas en convenir. Il lui fallait bien vivre quelque part. Et des gens de sa nuance, c'est-à-dire sans nuance, il n'en pouvait trouver. Dieu sait pourtant que la graine n'en est pas rare en France. Mais ils ont honte d'eux-mêmes. Ils se cachent ou se teignent en l'une des couleurs politiques à la mode, voire en plusieurs. Suivant l'habitude, il s'était attaché surtout à celui de ses nouveaux amis, qui était le plus différent de lui. Ce Français, bourgeois français et provincial dans l'âme, s'était fait le fidèle acate d'un jeune docteur juif, Manous Ayman, un russe réfugié qui, à la façon de beaucoup de ses compatriotes, avait le double don de s'installer chez les autres comme chez lui et de se trouver si parfaitement à l'aise dans toute révolution qu'on pouvait se demander si c'était le jeu ou la cause qui l'intéressait en elle. Ses épreuves et celles des autres lui étaient un divertissement. Sincèrement révolutionnaire, ses habitudes d'esprit scientifique lui faisaient regarder les révolutionnaires, lui compris, comme des sortes d'aliénés. Il observait cette aliénation tout en la cultivant. Son dilettantisme exalté et son extrême inconstance d'esprit lui faisaient rechercher les milieux les plus opposés. Il avait des acquaintances parmi les hommes au pouvoir et jusque dans le monde de la police. Il furetait partout avec cette curiosité inquiétante qui donne à tant de révolutionnaires russes l'apparence de jouer un double jeu et qui parfois de cette apparence fait une réalité. Ce n'est pas trahison, c'est versatilité, souvent désintéressée. Que d'hommes d'action pour qui l'action est un théâtre où ils apportent des aptitudes de bons comédiens mais toujours prêts de changer de rôle. À celui de révolutionnaire, Manous était fidèle, autant qu'il pouvait l'être. C'était le personnage qui s'accordait le mieux avec son anarchisme naturel et avec le plaisir qu'il avait à démolir les lois des pays où il passait. Malgré tout, ce n'était qu'un rôle. On ne savait jamais la part d'invention et celle de réalité qu'il y avait dans ses propos. Lui-même finissait par ne plus le savoir très bien. Intelligent et moqueur, doué de la finesse psychologique de sa double race, sachant lire à merveille dans les faiblesses des autres, comme dans les siennes, et habile à en jouer, il n'avait pas eu de peine à dominer Canet. Il trouvait plaisant d'entraîner ce Sancho Panza dans des équipées à la Don Quichotte. Il disposait sans façon de lui, de sa volonté, de son temps, de son argent. Non pour son propre compte, il n'avait pas de besoin, on ne savait de quoi il vivait, mais pour les manifestations les plus compromettantes de la cause. Canet se laissait faire. Il tâchait de se persuader qu'il pensait comme Manous. Il savait très bien le contraire. Ses idées l'effaraient. Elles choquaient son bon sens. Et il n'aimait pas le peuple. De plus, il n'était pas brave. Ce gros garçon, grand, large et corpulent, à la figure poupine, complètement rasée, le souffle court, la parole affable, pompeuse et enfantine, qui avait des pectoraux d'Hercule Farnèse, et qui était d'une jolie force à la boxe et au bâton, était le plus timide des hommes. S'il s'enorgueillissait de passer parmi les siens pour un esprit subversif, il tremblait en secret devant la hardiesse de ses amis. Sans doute, ce petit frisson n'était pas trop désagréable, aussi longtemps qu'il ne s'agissait que d'un jeu. Mais le jeu devenait dangereux. Ces animaux-là se faisaient agressifs, leurs prétentions croissaient. Elles inquiétaient Canet dans son égoïsme foncier, son sentiment enraciné de la propriété, sa pusillanimité bourgeoise. Il n'osait pas demander « Où me menez-vous ?» mais il pestait tout bas contre le sans-gêne des gens qui n'aiment rien tant qu'à se casser le cou, sans s'inquiéter de savoir s'ils ne casseront pas en même temps le cou des autres. Qui l'obligeait à les suivre? N'était-il pas libre de leur fausser compagnie? Le courage lui manquait. Il avait peur de rester seul, tel un enfant qu'on laisse en arrière sur la route et qui pleure. Il était comme tant d'hommes. Ils n'ont aucune opinion, sinon qu'ils désapprouvent toutes les opinions exaltées. Mais pour être indépendant, il faudrait rester seul. Et combien en sont capables? Combien, même des plus clairvoyants, auront la témérité de s'arracher à l'esclavage de certains préjugés, de certains postulats qui pèsent sur tous les hommes d'une même génération? Ce serait mettre une muraille entre soi et les autres. D'un côté, la liberté dans le désert, de l'autre côté, les hommes. Ils n'hésitent point. Il préfère les hommes, le troupeau. Il sent mauvais, mais il tient chaud. Alors, ils font semblant de penser ce qu'ils ne pensent pas. Ce ne leur est pas très difficile. Ils savent si peu ce qu'ils pensent. Connais-toi toi-même. Comment le pourraient-ils, ceux qui ont à peine un mois? Dans toute croyance collective, religieuse ou sociale, ils sont rares ceux qui croient, parce qu'ils sont rares ceux qui sont des hommes. La foi est une force héroïque. Son feu n'a jamais brûlé que quelques torches humaines. Elle-même vacille souvent. Les apôtres, les prophètes et Jésus ont douté. Les autres ne sont que des reflets. sauf à certaines heures de sécheresse des âmes, où quelques étincelles tombées d'une grande torche embrasent toute la plaine. Puis l'incendie s'éteint, et l'on ne voit plus luire que des charbons sous la cendre. À peine quelques centaines de chrétiens croient réellement au Christ. Les autres croient qu'ils croient, ou bien ils veulent croire. Il en est ainsi de beaucoup de ces révolutionnaires. Le bon Canet voulait croire qu'il l'était. Il le croyait donc. Et il était épouvanté de sa hardiesse. Tous ces bourgeois se réclamaient de principes différents, les uns de leur cœur, les autres de leur raison, les autres de leur intérêt. Ceux-ci rattachaient leur façon de penser à l'Évangile, ceux-là à M. Bergson, ceux-là à Karl Marx, à Proudhon, à Joseph de Maistre, à Nietzsche ou à M. Georges Sorel. Il y avait les révolutionnaires par mode, par snobisme, il y avait ceux par sauvagerie, il y avait ceux par besoin d'action, par chaleur d'héroïsme. Il y avait ceux par servilité, par esprit moutonnier. Mais tous, sans le savoir, étaient emportés par le vent. C'étaient les tourbillons de poussière qu'on voit fumer au loin, sur les grandes routes blanches, et qui annoncent que la bourrasque vient. Olivier et Christophe regardaient venir le vent. Tous deux avaient de bons yeux, mais ils ne voyaient pas de la même façon. Olivier, dont le regard lucide pénétrait l'arrière-pensée des gens, était attristé par leur médiocrité. Mais il apercevait la force cachée qui les soulevait. L'aspect tragique des choses le frappait davantage. Christophe était plus sensible à leur aspect comique. Les hommes l'intéressaient, nullement les idées. Il affectait envers elles une indifférence méprisante. Il se moquait des utopies sociales. Par esprit de contradiction et par réaction instinctive contre l'humanitarisme morbide qui était à l'ordre du jour, il se montrait plus égoïste qu'il n'était. L'homme qui s'était fait lui-même, le robuste parvenu, fier de ses muscles et de sa volonté, avait un peu trop tendance à traiter de fainéants ceux qui ne possédaient point sa force. Pauvre et seul, il avait pu vaincre, que les autres fissent de même. La question sociale, quelle question? La misère? Je la connais, disait-il. Mon père, ma mère et moi, nous avons passé par là. Il n'y a qu'à en sortir. Tous ne le peuvent point, disait Olivier. Les malades, les malchanceux. Qu'on les aide, c'est tout simple, mais de là à les exalter, comme on fait à présent, il y a loin. Naguère, on alléguait le droit du plus fort. Ma parole, je ne sais pas si le droit du plus faible n'est pas plus odieux encore. Il énerve la pensée d'aujourd'hui, il tyrannise et exploite l'effort. On dirait que ce soit maintenant un mérite d'être maladif, pauvre, intelligent, vaincu, un vice d'être fort, bien portant, triomphant. Et le plus ridicule, c'est que les forts sont les premiers à le croire. Un beau sujet de comédie, mon ami Olivier. J'aime mieux faire rire de moi que faire pleurer les autres. Bon garçon, disait Christophe. Parbleu, qui dit le contraire? Quand je vois un bossu, j'en ai mal dans le dos. La comédie, c'est nous qui la jouons. Ce n'est pas nous qui l'écrirons. Il ne se laissait pas prendre au rêve de justice sociale. Son gros bon sens populaire lui faisait opiner que ce qui avait été serait. « Si on te disait cela en heure, tu pousserais de beaux cris, » observait Olivier. « Peut-être bien. En tout cas, je ne m'y connais qu'en art. Et toi aussi. Je n'ai pas confiance dans les gens qui parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. » Olivier n'avait pas non plus confiance. Les deux amis poussaient même un peu loin leur méfiance. Ils s'étaient toujours tenus en dehors de la politique. Olivier avouait, non sans un peu de honte, qu'il ne se souvenait pas d'avoir usé de ses droits d'électeur. Depuis 10 ans, il n'avait pas retiré sa carte d'inscription à la mairie. « Pourquoi m'associer, disait-il, à une comédie que je sais inutile? Voter? Pour qui voter? Je n'ai nulle préférence entre des candidats qui me sont également inconnus et qui, j'ai trop de raisons de l'attendre, dès le lendemain de l'élection, trahiront également leur profession de foi. Les surveiller? Les rappeler au devoir? Ma vie s'y passerait sans fruit. Je n'ai ni le temps, ni la force, ni les moyens oratoires, ni le manque de scrupules et le cœur cuirassé contre les dégoûts de l'action. Il vaut mieux m'abstenir. Je consens à subir le mal. Du moins, n'y pas souscrire. » Mais malgré sa clairvoyance excessive, cet homme qui répugnait au jeu régulier de l'action politique conservait un espoir chimérique dans une révolution. Il le savait chimérique, mais il ne l'écartait point. C'était un mysticisme de race. On n'appartient pas impunément au grand peuple destructeur d'Occident, au peuple qui détruit pour construire et construit pour détruire, qui joue avec les idées et avec la vie, qui fait constamment table rase pour mieux recommencer le jeu et pour enjeu verse son sang. Christophe ne portait pas en lui ce messianisme héréditaire. Il était trop germanique pour bien goûter l'idée d'une révolution. Il pensait qu'on ne change pas le monde. Que de théories, que de mots, quel bavardage inutile. Je n'ai pas besoin, disait-il, de faire une révolution, ou des palabres sur la révolution, pour me prouver ma force. Surtout, je n'ai pas besoin, comme ces braves jeunes gens, de bouleverser l'État pour rétablir un roi ou un comité de salut public qui me défende. Singulière preuve de force. Je sais me défendre moi-même. Je ne suis pas un anarchiste. J'aime l'ordre nécessaire et je vénère les lois qui gouvernent l'univers. Mais entre elles et moi, je me passe d'intermédiaire. Ma volonté sait commander et elle sait aussi se soumettre. Vous qui avez la bouche pleine de vos classiques, souvenez-vous de votre Corneille, moi seul et c'est assez. Votre désir d'un maître déguise votre faiblesse. La force est pareille à la lumière, aveugle qui la nie. Soyez fort tranquillement, sans théorie, sans violence. Comme les plantes vers le jour, toutes les âmes des faibles se tourneront vers vous. Mais tout en protestant qu'il n'avait pas de temps à perdre aux discussions politiques, il en était moins détaché qu'il ne voulait le paraître. Il souffrait, comme artiste, du malaise social. Dans sa disette momentanée de passion, il lui arrivait de regarder autour de lui et de se demander pour qui il écrivait. Alors il voyait la triste clientèle de l'art contemporain, cette élite fatiguée, ces bourgeois dilettantes, et il pensait « Quel intérêt y a-t-il à travailler pour ces gens-là » Certes, il ne manquait point d'esprit distingué, instruit, sensible au métier, et qui n'était même pas incapable de goûter la nouveauté ou, c'est tout comme, l'archaïsme de sentiments raffinés. Mais ils étaient blasés, trop intellectuels, trop peu vivants pour croire à la réalité de l'art. Ils ne s'intéressaient qu'au jeu, des sonorités ou des idées. La plupart étaient distraits par d'autres intérêts mondains, habitués à se disperser entre des occupations multiples dont aucune n'était nécessaire. Il leur était à peu près impossible de pénétrer sous l'écorce de l'art jusqu'au cœur. L'art n'était pas pour eux de la chair et du sang, c'était de la littérature. Leur critique érigeait en théorie, d'ailleurs intolérante, leur impuissance à s'évader du dilettantisme. Quand par hasard quelques-uns étaient assez vibrants pour résonner aux puissants accords de l'art, ils n'avaient pas la force de le supporter, ils en restaient détraqués pour la vie. Névrose ou paralysie. Qu'est-ce que l'art venait faire dans cet hôpital? Et cependant, ils ne pouvaient, dans la société moderne, se passer de ces anormaux, car ils avaient de l'argent et la presse. Eux seuls pouvaient assurer à l'artiste le moyen de vivre. Il fallait donc se prêter à cette humiliation, d'offrir comme divertissement, comme désennui plutôt que comme ennui nouveau, dans des soirées mondaines, à un public de snobs et d'intellectuels fatigués, l'intimité frémissante de son art, la musique où l'on a mis le secret de sa vie intérieure. Christophe cherchait le vrai public, celui qui croit aux émotions de l'art comme de la vie, et qui les ressent avec une âme vierge. Et il était obscurément attiré par le nouveau monde promis, le peuple. Les souvenirs de son enfance, de Gottfried et des humbles qui lui avaient révélé la vie profonde, ou qui avaient partagé avec lui le pain sacré de la musique, l'inclinaient à croire que ses véritables amis étaient de ce côté. Comme d'autres naïfs jeunes hommes, il caressait des grands projets d'art populaire, de concerts et de théâtre du peuple, qu'il eût été bien embarrassé pour définir. Il attendait d'une révolution la possibilité d'un renouvellement artistique, et il prétendait que c'était pour lui le seul intérêt du mouvement social. Mais il se donnait le change. Il était trop vivant pour ne pas être aspiré par l'action la plus vivante qui fût alors. Ce qui l'intéressait le moins dans le spectacle, c'étaient les théoriciens bourgeois. Les fruits que portent ces arbres-là sont trop souvent des fruits secs. Tout le suc de la vie s'est figé en idées. Entre ces idées, Christophe ne distinguait pas. Il n'avait pas de préférence, même pour les siennes, quand il les retrouvait, congelées en système. Avec un mépris bonhomme, il restait en dehors des théoriciens de la force et de ceux de la faiblesse. Dans toute comédie, le rôle ingrat est celui du raisonneur. Le public lui préfère non seulement les personnages sympathiques, mais les antipathiques. Christophe était public en cela. Les raisonneurs de la question sociale lui semblaient fastidieux, mais il s'amusait à observer les autres, ceux qui croyaient et ceux qui voulaient croire, ceux qui étaient dupes et ceux qui cherchaient à l'être, voir les bons forbans qui font leur métier de rapaces et les moutons qui sont faits pour être tondus. Sa sympathie était indulgente aux braves gens un peu ridicules, comme le gros Canet. Leur médiocrité ne le choquait pas autant qu'Olivier. Il les regardait tous avec un intérêt affectueux et moqueur. Il se croyait dégagé de la pièce qu'il jouait, et il ne s'apercevait pas que peu à peu il s'y laissait prendre. Il pensait n'être qu'un spectateur qui voit passer le vent. Déjà le vent l'avait touché et l'entraînait dans son remous de poussière.